19h-20h, le 19 hors taxe avec Mélanie.
Il est 19h, vous êtes sur FMR, le 19 hors taxe. Bienvenue à tous, ça fait un petit moment qu'on ne m'avait pas entendu en direct en tout cas. Je suis ravie de vous retrouver. Vous m'écoutez peut-être depuis les bouchons. Eh bien, sachez qu'il y a des bouchons devant la radio. c'est pas évident pour tout le monde en ce moment, là, je crois, pour ceux qui sont en train d'attendre. Alors, on passe direct au programme de l'émission. Au programme, du coup, de cette émission, on va écouter de la musique, mais pas n'importe laquelle. On commencera par de la musique autour d'Ibrahim Malouf, car j'ai eu la chance de l'interviewer à Poste Guitare cette année. Donc, je suis contente de vous présenter cette interview. On écoutera aussi beaucoup de pop et de rock. On continuera bien sûr avec des anecdotes de culture générale, un agenda et des bons plans pour aller se baigner dans les environs de Toulouse. On commence tout de suite avec une première chanson. Une chanson, du coup, une musique d'Ibrahim Malouf qui s'appelle Beyrouth. Et on se retrouve avec l'interview juste après.
Thank you.
C'est l'invité du 19 hors taxe. Attention, il y a des cafards dans l'escalier.
Et comme je vous disais en introduction, lors du festival de Pause Guitare cette année, j'ai eu la chance d'interviewer Ibrahim Malouf. On était en conférence de presse et du coup, on va la diffuser tout de suite, cette interview qui était très très intéressante. J'étais très impressionnée par ce grand monsieur.
Capacity of love.
Capacity to love.
Ah oui, ce qui veut dire pourquoi
qui veut pas dire la même chose, parce que capacity of love, c'est-à-dire la capacité de l'amour.
De l'amour.
Et capacity to love, c'est la capacité, notre capacité à aimer.
Et alors, avoir choisi un extrait de Charlie Chaplin, le discours du dictateur, c'est un moment clé du film, où ce type qui est pris pour un dictateur dit tout ce qu'il a sur le cœur. Il fallait que ce soit ça pour commencer votre album.
Oui, pour moi, c'est
parce que c'est en anglais, en plus.
Oui, mais maintenant, on n'est pas à ça près. Même si le discours était en japonais, je l'aurais mis.
Oui.
On est une génération qui est sur Internet, donc les traductions, tout ça, c'est très facile. Mais l'anglais, ça passe encore. Mais c'est surtout que je trouve que ce discours a... D'abord, résume bien la philosophie de cet album, en général, de ma musique... de ce que j'essaie de faire depuis très longtemps, qui est de faire en sorte que les gens cessent de penser que les différences sont des menaces. Et quand on est musicien et que on essaie de faire qu'on fait ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire mélanger des styles, mélanger des couleurs, mélanger des cultures les unes avec les autres, sans forcément que ce soit fait de manière intentionnelle, mais juste parce que c'est ça que j'aime et c'est ce qui me plaît dans la musique et dans le développement de mon art. On est toujours confronté à l'idée que tiens, pourquoi vous avez mis du hard rock dans une mélodie arabe, pourquoi vous mélangez le rap avec le jazz, c'est quoi l'intention derrière? C'est pas une intention, c'est la culture. La culture est créée à partir des mélanges, en fait, et c'est la vision que j'ai de notre société, et c'est en tout cas celle que je défends, et ce discours nous rappelle les fondamentaux.
Alors c'est le 15e album.
Alors oui, c'est le 15e album studio,
ouais.
C'est le 17e si je compte les lives avec.
Ouais. Et puis là, vous sortez de votre zone de confort, parce qu'effectivement, la trompette n'a pas le premier rôle, il est teinté de hip-hop, il y a beaucoup d'invités, c'est super.
Ouais, ouais.
Ça change.
Et surtout, ce qui change, c'est que cet album va de manière très claire et ouverte vers la culture urbaine,
ouais.
Et sans faire de concessions, c'est vraiment... J'avais jamais fait ça de cette manière-là avant. J'avais déjà travaillé avec le rap, avec le monde du hip-hop, beaucoup avant. Mais jamais sur un album avec autant de présence de rappeurs. Ça a été une belle aventure de sortir un peu de son confort et de ses habitudes et d'aller vers ça.
Et comment ça va se passer en scène?
Eh ben vous allez voir. Vous restez pour le concert, assurément.
Oui, je reste. On reste, ouais.
S'il pleut pas, enfin s'il n'y a pas de grêle.
Non, mais ça va être curieux, justement.
Mais disons qu'il n'y a pas tous ces invités. Ouais. Donc forcément, les versions, et d'ailleurs tant mieux, je trouve, les versions qu'on fait sur scène sont assez différentes de celles de l'album. Et c'est bien, parce que ça permet de proposer deux projets qui évidemment se ressemblent beaucoup, mais qui sont quand même très différents. Et souvent, ce que moi je trouve dommage, c'est de tomber dans le piège de refaire sur scène la même chose que l'album. Ce que malheureusement existe, ce qui existe beaucoup, je trouve. Et moi-même, quand je vais voir des concerts, je suis un peu déçu parfois de voir que c'est vraiment exactement la même chose. Et parfois même, c'est vraiment l'ordi qui balance exactement la bande-son de l'album et la personne qui chante au-dessus. Donc, comme je suis instrumentiste, je suis quand même passionné des appareils, tout ce qui est arrangement, orchestration, réarrangement, retravail d'une musique. Donc là, c'était presque un plaisir, en fait, de me dire, voilà, je vais devoir retravailler pour la scène. C'est regrettable parce qu'il n'y a pas tous les invités, évidemment, mais voilà.
Ça va être intéressant de vous découvrir. On a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner entre l'album studio et tous ces invités, ce que ça va donner.
Ce que ça donne sur scène, ouais. Et j'espère que vous ne serez pas déçus.
C'est vrai que... Sur cet album, il y a beaucoup d'invités, mais sur les précédents, vous avez déjà invité beaucoup de monde. Je vous avais vu, je crois, en 2016 à l'écosystème, vous aviez pris plaisir à monter sur scène avec un autre groupe programmé ce soir-là. Je crois que c'était La Rue qui est à nous, peut-être. Ouais. C'est un exercice que vous faites toujours quand vous arrivez sur un festival.
Dès que c'est possible.
Ouais.
Dès que les rencontres sont possibles, dès que les artistes aiment, parce que tous les artistes n'aiment pas.
Oui.
Il y a des Il y a des artistes qui sont très à l'aise dans la rencontre, dans le croisement, dans l'improvisation, dans le fait de faire un truc qui n'était pas du tout prévu. Et vous en avez beaucoup que ça déstabilise. Mmh. Souvent, ceux qui sont les plus expérimentés sont ceux qui ont le plus d'habitude et qui n'ont pas de problème avec ça. Et ceux qui sont encore en train de développer leur projet, encore tout frais, ont encore un peu l'habitude, sont encore un peu frileux pour faire ce genre de choses. Oui. La rue Quétano, ils en ont fait des concerts.
Oui.
Et dans les festivals, souvent, moi j'ai des souvenirs, par exemple à Musilac, de croiser Sting dans les couloirs du festival. Et comme j'avais travaillé avec lui 2-3 ans plus tard, qui me dit « Oh, viens jouer !» J'ai dit « Quoi ? Pardon ?» Et oui, il y a des très très belles rencontres en festival. Après, c'est pas tout le temps comme ça, évidemment, mais et ouais, c'est chouette.
Alors justement, toutes ces rencontres, il y en a pas mal dans vos albums. Est-ce que vous pouvez parler d'une collaboration future que vous aimeriez faire avec un artiste
dans les prochaines pas, collaborations
ouais.
Musicales ou tout confondu
musical. Oh, bah non, tout confondu. Allons-y.
Bah, tout confondu, je viens de terminer une très chouette aventure. Puisque j'ai été invité par Claude Lelouch pour composer la musique de son prochain film.
Oui, parce que vous faites des films aussi.
Voilà, je fais aussi des musiques de films. Et donc le film va sortir l'année prochaine. Donc il n'existe pas, enfin personne ne le connaît encore. Mais je suis très très fier de cette collaboration parce que pour moi, cet homme représente une part énorme de ce qu'est le cinéma français, de ce qu'est la culture française de ces 50-60 dernières années d'un point de vue cinématographique. Et de pouvoir apporter. Un peu mon petit caillou à l'édifice Lelouch. J'avoue, j'étais très impressionné, intimidé au départ, et la collaboration est vraiment très très chouette. Et je suis impatient de montrer à tout le monde ce travail qu'on a fait ensemble. Vraiment, je suis très très fier.
Vous avez vu le film et ensuite vous faites la bande sonore ou c'est
Alors avec Claude Lelouch, non, c'est toujours le contraire.
C'est le contraire.
C'est toujours le contraire. C'est-à-dire, c'est peut-être le seul réalisateur de films en France. Parce qu'à l'étranger, je pense, que ça doit exister, mais en France, c'est, je crois, le seul, si c'est peut-être un des rares, très très rares, je pense le seul, à faire son film en fonction de la musique.
D'accord.
Et ouais, c'est incroyable. Il a travaillé pendant de très très nombreuses années avec Francis Lai, qui est un des plus grands compositeurs de musique de film, avec Michel Legrand et avec pas mal de très très grands compositeurs. Et là, d'un seul coup, le jour où j'ai reçu son appel, j'ai fait « Non, je suis en train de rêver, c'est pas possible, pincez-moi. » et donc voilà, donc j'étais... C'est vraiment un homme incroyable et un créateur dingue. Enfin, moi qui parle beaucoup d'improvisation, c'est facile à la trompette d'improviser, mais improviser un film, il fait vraiment ça. Il a des scénarios, il a un scénario, et ensuite il improvise tout. C'est fou. Moi, je les ai vus tourner et tout. J'ai été très très impressionné par cet homme et sa manière de travailler.
Justement, vous parlez d'improvisation et j'ai entendu dans une interview que vous disiez que ce serait bien d'intégrer plus d'improvisation dans les conservatoires.
Ouais.
Alors, pourquoi, selon vous, c'est formateur pour un musicien ?
Alors, est-ce que vous avez 3 heures devant vous ?
Je sais, c'est super intéressant, c'est pour ça que j'ai pris la question.
Je sais pas si c'est intéressant, mais je peux vous dire que j'en ai fait le combat de ma vie.
Ouais.
J'ai même écrit un livre à ce sujet, j'ai créé un orchestre, j'ai monté une classe au Conservatoire de Paris il y a une dizaine d'années. Je fais des événements qui s'appellent les improvisations géantes. J'ai créé une émission de radio pour parler d'improvisation sur TSF Jazz. J'ai même fait, à l'occasion de la fête de la musique, une émission de télé sur Canal pour promouvoir tout ce travail-là. Donc, si vous voulez, je suis vraiment très, très engagé dans ça, parce que l'improvisation, au-delà d'être simplement... C'est le côté visible de l'iceberg de l'improvisation, c'est je prends une trompette ou au théâtre, d'ailleurs ça existe aussi, ou un instrument de musique, et je me mets à improviser. Ça, c'est le truc visible que tout le monde connaît. Voilà. En fait, c'est beaucoup plus large que ça.
Ouais.
C'est toute une philosophie de vie, c'est toute une manière de se comporter, toute une manière d'éduquer nos enfants, toute une manière d'éduquer la société dans laquelle on vit. Pour pratiquer l'improvisation en groupe, il y a besoin d'une énorme bienveillance, d'une empathie incroyable, d'une écoute de l'autre, d'un respect de la parole de l'autre. Je pourrais en parler des heures, parce qu'en fait, tout le travail qu'on doit faire quand on est en train d'improviser tout seul ou en groupe, c'est un travail de psychologie qui est extrêmement élaboré. Et encore une fois, la partie visible, c'est on voit quelqu'un prendre un instrument et jouer, et on dit « Ah, c'est sympa, ils n'ont jamais ». Mais derrière tout ça, il y a une philosophie qui est absolument passionnante. Et donc, au-delà du fait d'improviser et de s'amuser, je défends cette discipline et je voudrais qu'elle soit réintégrée dans l'éducation, et que ce soit dans les conservatoires, mais aussi dans l'éducation nationale et dans les écoles et dans plein de disciplines, pas que dans la musique. Dans mon livre, je détaille comment dans les maths on peut faire de l'impro, dans l'histoire, la géographie on peut faire de l'impro, comme dans la science, en français, dans les langues étrangères on peut faire de l'improvisation. Il y a énormément de choses à faire en fait, et on n'exploite pas cette créativité qui en plus est extrêmement naturelle chez les jeunes, chez les enfants et chez les jeunes. Moi, je vois, j'ai trois enfants, mais tout petits, mes deux petits là, par exemple, le petit là, il a 2 ans, petit garçon, il ne demande qu'à apprendre, mais il veut juste apprendre en jouant. Et le jeu, c'est la meilleure manière d'intégrer et d'assimiler des choses en fait. Et l'improvisation, ce n'est que du jeu. C'est du jeu avec l'autre, c'est de l'interaction, c'est parfois du jeu tout seul, etc. Donc du coup, je me dis que ça nous manque vraiment, parce que ça pourrait nous apprendre tellement de choses sans avoir l'impression de travailler. Et ça nous permet d'assimiler énormément de choses, énormément de culture, de langage, de vocabulaire, de connexion, de nos synapses se remettent à fonctionner différemment si on réintègre cette nécessité d'interagir les uns avec les autres dans la bienveillance, dans l'empathie, dans tout ça.
Alors, quelle est la place de la composition ? Parce que quand vous produisez un album, quand vous composez une musique de bande originale pour Lelouch, il y a une part où vous allez devoir composer.
Mais en fait, tout est... Vous savez, là, vous êtes en train d'enregistrer.
Oui.
Une fois, si vous avez envie, par exemple, de réécrire tout ce qu'on s'est dit là mot à mot, vous écoutez, vous réécrivez et ça fait un article. D'accord ? Cet article là c'est devenu un article, mais au départ on l'a improvisé. Vous aviez des idées derrière la tête, mais au final ça s'est pas vraiment passé exactement comme vous l'aviez en tête, mais au final ça, le fruit de tout ça c'est un résultat. Si on décide de l'immortaliser, on l'immortalise. On pourrait ne pas l'immortaliser et ça deviendrait juste une impro. Pour moi c'est exactement la même chose avec la musique. Beaucoup de choses sont improvisées. Après, on décide de les travailler, de les retravailler, de les enregistrer telles quelles, de les élaborer beaucoup plus, de les arranger pour orchestre symphonique ou de les garder pour juste, je sais pas moi, flûte de pan solo. Donc en fait, mais au départ, c'est toujours une improvisation. Donc pour moi, le lien entre l'improvisation et la composition, c'est que c'est la même chose. La différence, c'est que la composition, on va peut-être l'élaborer beaucoup plus ou un peu plus, ou parfois même pas du tout, mais on va juste l'imprimer.
Oui, l'imprimer, c'est-à-dire que vous allez en garder une trace autre que...
Que la mémoire.
Exactement.
Que le souvenir, ouais.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Le 23 novembre prochain, vous faites l'accord à l'Arena.
C'est le 29, ouais.
Le 29, pardon. 29 novembre prochain. Comment on prépare une date aussi grande ?
D'abord, merci de poser la question, parce que c'est vrai que, en fait, beaucoup d'artistes font Bercy.
Oui.
Beaucoup d'artistes font Bercy. Sauf que, pour un trompettiste, faire Bercy, c'est comme faire 10 stades de France. Parce qu'en fait, moi, je passe pas en radio, par exemple. Je passe pratiquement jamais en radio. Les radios généralistes ne m'ont jamais playlisté en 17 albums. Donc, j'ai un public qui me suit, qui est très fidèle, qui grandit d'année en année, etc. Mais j'ai pas la visibilité ni la popularité des très grands artistes qui font des Bercy. Donc, pour moi, c'est un événement complètement stratosphérique, en fait, de faire un concert comme ça. Et donc, on en a déjà fait deux, un en 2016 et un en 2022. Ce sera donc la troisième fois. Donc je suis forcément hyper ému et touché que le public ait envie de venir vivre ces expériences en fait avec moi et avec tous mes musiciens, mon équipe. Et je prépare ça comme en fait un anniversaire en fait, comme en fait un grand anniversaire. Voilà, j'invite des gens que j'aime, je décore, je prépare des danses, des chants, des trucs. Et après, voilà, on fait la fête.
On aura le plaisir de vous voir avant, le 15 novembre aussi, au Zénith Toulouse Métropole.
Ouais, voilà, on fait une tournée, ouais, une tournée de Zénith pendant quelques jours avant le concert de Bercy. Absolument. On sera à Toulouse, absolument. Il faut le dire.
C'est pour ça qu'on le dit. Ouais.
C'est ça, c'est
important.
C'est
un rendez-vous à ne pas manquer.
Ouais, ça va être chouette aussi.
On va devoir bientôt arrêter la conférence. Du coup, si vous avez une dernière question.
Mais moi, il y avait une question parce que c'était par rapport à au son de votre trompette. Vous avez un son clairement identifiable, un peu comme Brian May et sa fameuse guitare dans le groupe Queen. Est-ce que c'est dû aussi au fait que ce soit votre papa qui, dans les années 60, a créé cette trompette-là, pour, comme Brian May d'ailleurs, avec ce bois de cheminée, pour ressortir un son exceptionnel ?
C'est évident que mon père, au-delà d'avoir inventé un instrument, Il a inventé, pour ceux qui ne savent pas, une trompette qui permet de jouer les gammes orientales, donc avec un quatrième piston qui permet de jouer les gammes arabes. Mais en fait, il a fait beaucoup plus que ça. En fait, il a été le premier dans l'histoire de cet instrument à jouer comme il a joué. Personne ne jouait la trompette comme ça. Mais vraiment, personne. Pour écouter tous les trompettistes au monde qui ont existé, ça n'a jamais arrivé qu'on joue la trompette comme lui l'a fait. Donc moi, j'ai pris, en fait, il m'a appris tout ce qu'il avait inventé. Il m'a donné cet héritage et je l'ai ensuite fait à ma façon, évidemment. Voilà, j'ai retravaillé à ma façon. Mais c'est à 80 000% inspiré de ce que lui, en fait, a fait sur cet instrument, qui est du pur génie. Mon père n'est pas très connu, pas du tout connu même, sauf peut-être par certains trompettistes classiques. Mais il a fait 2 disques dans sa vie. 3 avec un disque de musique protestante, parce que quand il est arrivé en France, il avait été beaucoup encouragé par une organiste à l'Oratoire du Louvre qui lui avait demandé de faire un disque de musique protestante. Ils avaient fait ça ensemble. Mais mon père a fait vraiment 2 disques finalement dans sa vie. Et ces 2 disques sont du génie pur. J'ai une énorme admiration pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a inventé. Et c'est vrai que cette manière-là de jouer, il m'a appris à jouer de cette manière-là. Je l'ai donc personnalisé. Mais c'est vrai que la trompette, c'est un instrument qui fonctionne avec les lèvres. Et donc, je ne sais pas si vous savez, mais nos cordes vocales, c'est 2 muscles qui fonctionnent exactement comme des lèvres. C'est exactement le même fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de... Et donc, en fait, le son qui sort de la trompette, c'est un son qui correspond à la voix de la personne. C'est pour ça que tous les trompettistes, pas que moi, mais tous les trompettistes ont leur son. Et normalement, quand on a un peu l'oreille éduquée, qu'on a l'habitude de la trompette, on peut reconnaître... Alors, parfois, ils ont tous un son très trompettistique, très trompette, cuivré. Mais il y en a certains, vous pouvez tout de suite deviner. John Hassell, on sait tout de suite quand c'est lui qui joue. Don Ellis, on sait tout de suite quand c'est lui qui joue. Wynton Marsalis, on sait quand c'est lui. Miles Davis, on sait quand c'est lui. Louis Armstrong, tous les trompettistes qui avaient vraiment un truc, en général, on reconnaît leur son. C'est la trompette qui est comme ça aussi. Alors que pour le piano, pour la guitare, on aurait beaucoup plus éduqué pour reconnaître le son. Ça va être plus dans la manière de jouer qu'on va reconnaître.
Juste un nom que vous portez, à part papa, il y a un trompettiste qui sort du lot ou un musicien?
Ah bah tous ceux que je viens de citer déjà. Voilà. Tous ceux que je viens de citer. Après, vous savez, moi j'adore la trompette, mais j'en ai écouté beaucoup, j'en ai, bon, visiblement joué pas mal aussi, donc j'aime cet instrument, mais ça m'a. C'est pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très très passionnés par l'histoire de cet instrument, par les jeux, par les musiciens. Moi, je vais être beaucoup. Enfin, il y a des choses qui vont me passionner plus. Donc, du coup, je vais être moins focalisé sur l'instrument lui-même.
Voilà. Merci.
Merci beaucoup.
Et voilà, on vient d'écouter du coup l'interview faite en conférence de presse. D'ailleurs, je remercie tous les autres animateurs et journalistes qui étaient avec moi. Je leur fais un petit coucou. Et du coup, on va écouter Ibrahim Malouf, Una Rosa Blanca. Et on se retrouve juste après. Ça veut bien partir.
Thank you. is famous in his most famous poem. José Martí made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz.
Le 19 hors taxe avec Mélanie.
Et on est presque en août. J'ai quelques propositions de lieux, de plans d'eau à aller visiter si vous avez chaud, comme nous à peu près dans le studio là. Il fait à peu près 40 degrés dans le studio. On est en nage et on ne rêve que d'une chose, c'est d'aller se baigner proche de Toulouse. Alors tout d'abord, je vous propose le lac de Saint-Féréol, qui est une base de loisirs située à peu près à 1 heure de Toulouse. Elle propose de nombreuses activités nautiques et terrestres, comme le canoë, la planche à voile, le VTT, l'acrobranche, le tir à l'arc, et il y a une plage surveillée. Donc du coup, bon plan, et c'est gratuit bien sûr. Tous les plans que je propose sont gratuits. Radin malin. Ensuite, je vous propose le classique, le lac de la Ramée, qui est à Tournefeuille. Et bien là, c'est à peu près à 30 minutes de Toulouse, en fonction de du côté où vous êtes. C'est un très joli lac où vous pouvez même faire de la voile, du paddle. Il y a un stand de paddle, de location de paddle. Vous pouvez vous baigner au niveau de la plage, il y a du sable et la baignade est surveillée. C'est gratuit également. Le lac de la Tézoc, qui est à Naïou. Et bien ça, c'est à 35 minutes de Toulouse. Il va falloir prendre peut-être l'autoroute pour aller un petit peu plus vite, l'autoroute de la mer. Et on y retrouve un écrin de verdure qui abrite un lac où les familles pourront se rendre. C'est gratuit, il y a aussi des attractions nautiques, des VTT et une plage surveillée et des jeux gonflables. Vous pouvez aussi aller à Caraman, c'est à 40 minutes de Toulouse. Il y a une plage qui est surveillée et un endroit paisible peu fréquenté. Donc ça, c'est le lac de l'Orme Blanc à Caraman. Pour ceux qui vont du côté du Gers, il y a le lac de Saint-Matan à 45 minutes de Toulouse. C'est un lac très agréable et il y a de nombreuses activités qui peuvent être pratiquées, dont des jeux aquatiques comme des toboggans ou pataugeoires. C'est nickel pour les enfants. Et il y a une jolie plage de sable fin et une piscine à proximité. Par contre, attention, la plage est payante. Enfin, l'accès est payant. C'est 2 euros le week-end. Sinon, il y a le lac de la Ganguise qui est à Belfou. C'est à un petit peu moins d'une heure de Toulouse. C'est un joli plan d'eau où il y a des véliplanchistes. On peut faire du coup de la planche, mais enfin, je sais pas trop ce que c'est. C'est des pédalos peut-être. Est-ce que tu connais véliplanchiste ce mot? Non. Bon. Aussi des baigneurs en quête de tranquillité. Vous pouvez faire le tour du lac. C'est magnifique. Il y a quelques petites criques qui n'attendent que vous pour les visiter. Donc c'est gratuit. Et par contre, ce n'est pas surveillé. Sinon, je propose d'aller un petit peu plus loin encore. C'est du côté de Carcassonne, au lac de la Cavaillère. C'est un lac artificiel qui est situé à un peu plus d'une heure de Toulouse. Sa grande plage est très aimée des habitants de la région et on peut se promener autour. Et l'eau est plutôt bleue, puisque c'est artificiel. Baignade gratuite et surveillée. Et enfin, du côté de l'Ariège, je propose d'aller au lac du Carlabail, le mignon petit village. Ariégeois qui propose une petite plage surveillée et des balades interminables autour de ce joli village. C'est à une heure de route de Toulouse et c'est gratuit. Sinon, il y a bien sûr toutes les piscines et un bon plan que je voulais vous partager. C'est pour tous les résidents de Toulouse, vous pouvez vous rendre sur montoulouse.fr et c'est le site de la Toulouse Métropole. Et dedans, il y a même des activités, notamment de l'aquabike et du l'aquafitness à la piscine Nakache. Vous pouvez vous inscrire, il y a des tarifs préférentiels vis-à-vis des externes de Toulouse, on va dire. Voilà, je vous laisse maintenant profiter de la musique avec plusieurs titres. On va écouter Will of the People de Muse, on va écouter One Republic Runaway et on commence tout de suite avec Aden Foyer, The Ballet Girl. On se retrouve dans quelques minutes.
Alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Oh, oh, oh. Now she's dancing alone. Toes bleeding out on the floor. Oh, now she's dancing alone. As she moves to Daggio.
run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain. Trying to switch the lane.
Yeah.
L'anecdote de la machine à café. C'est l'anecdote que tu racontes tous les matins à la machine à café. On n'avait pas trouvé de titre mieux.
Comme si bien présenté par notre jingle. Et bien ouais, maintenant c'est l'heure des anecdotes de la machine à café. Alors qu'est-ce que j'ai à vous apprendre aujourd'hui ? On commence d'abord par parler des pupilles. Les pupilles des animaux ne sont pas toutes rondes. Certains, ben, c'est rectangulaire. Alors j'aimerais bien vous faire deviner quel animal a des pupilles rectangulaires. Et bien il s'agit des chèvres. Les chèvres ont une pupille rectangulaire qui permet d'élargir leur champ de vision à plus de 300 degrés. Ensuite, on va parler papier toilette. Le premier papier toilette commercialisé aux États-Unis en 1857 n'était pas des plus agréables à l'utilisation. Il fallut en effet attendre les années 1930 pour que les procédés de fabrication garantissent l'absence d'échardes. La société Northern Tissues en a même fait un slogan. Ça fait quand même pas mal de temps, je trouve. Ensuite, petit mot qui est d'actualité, le mot transat. Si vous aimez vous prélasser au soleil, au bord d'une piscine ou dans le jardin, eh bien, transat, savez-vous que ça désigne en fait donc une chaise longue, mais c'est un diminutif du mot transatlantique. Ces chaises ont été inventées au début du XXe siècle pour les passagers de première classe voyageant en paquebot sur la ligne transatlantique. Elles étaient aussi appelées chaises de pont. Autre anecdote, on va parler de maladies. Avant, alors ça va être très surprenant, on soignait jadis la syphilis avec la malaria. La malaria-thérapie a été mise au point dans les années 20 par Julius Wagnes Jogreg, ça reposait sur une inoculation volontaire du paludisme qui provoquait une fièvre si forte qu'elle stoppait l'activité de la bactérie responsable de la syphilis. La méthode valut d'ailleurs le prix Nobel de médecine à ce fameux Julius en 1927. Donc en gros, on te donnait une autre bactérie, un autre virus pour soigner quelque chose qui pouvait être tout à fait mortel également. Maintenant, un petit peu de littérature. Alors, je vous propose de découvrir, si vous ne la connaissez pas, Danielle Steele. Danielle Steele, qui est l'autrice la plus lue dans le monde, devant J.K. Rowling. Elle a vendu plus de 800 millions d'exemplaires de ses romans, principalement des histoires d'amour, et a figuré sur la liste des best-sellers de New York Times pendant 381 semaines consécutives. Ce n'est pas rien. Allez, on va parler un petit peu d'histoire. Le guide Michelin a bien servi aux Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. L'édition de 1939 fut spécialement réimprimée à l'intention des soldats débarquant en France, car ces cartes étaient jugées plus fiables et plus à jour que celles normalement utilisées par les militaires de l'époque. Et enfin, dernière anecdote, le titre le plus célèbre de Nirvana, que vous connaissez, Smells Like Teen Spirit, est inspiré d'une inscription moqueuse sur un mur qu'avait écrite une amie du chanteur, Kurt Cobain. Il vit alors une dimension philosophique, et ne comprit qu'après la sortie du single que Teen Spirit était le nom d'un déodorant pour jeune fille que portait une de ses ex à l'époque. Voilà. Et pour terminer, mot du jour, érotophobie. Alors moi je pense que je suis un petit peu érotophobe. Beaucoup de gens doivent l'être. C'est la crainte ou la peur de rougir. Voilà. Pensez à tous ceux qui prennent un coup de soleil aussi. Allez, on va attaquer bientôt la dernière partie de l'émission. Je vous propose d'écouter deux titres classiques. Et on se retrouve pour l'agenda. Il s'agit de Living on a Prayer de Bon Jovi et I Was Made for Loving You de Kiss. On se retrouve dans quelques minutes pour l'agenda.
We'll be right back.
Les sorties de la semaine à Toulouse, c'est avec l'agenda du 19 hors taxe.
Allez, il est 19h55, je vais vous laisser bientôt et du coup je vous propose un petit agenda d'activités à faire dans les jours à venir. On commence tout de suite avec un tournoi de fléchettes qui va se dérouler à l'Astronef ce jeudi soir à partir de 19h, il n'est pas trop tard pour y aller. Peu importe le niveau, vous pouvez vous y participer. Par contre, il va falloir venir avec votre propre matériel. Donc, ça se passe à l'Astronef. Autre épreuve sportive que je plébiscite, il s'agit du Tour de France féminin qui arrive à Blagnac demain soir à 17h. Donc, du coup, comme pour les hommes, il y a une caravane qui va passer, une caravane publicitaire. Il va y avoir tout au long de l'après-midi des activités. C'est un événement sportif à ne pas rater sur la Ville Rose. Elles vont parcourir demain pour la 6e étape, 122 km de course. Donc c'est à Blagnac et ça sera demain en fin d'après-midi. Ensuite, petit concert, La Fierté de la Honte. C'est une soirée aux Connexions qui est à Jean Jaurès. C'est samedi 29 juillet à partir de 23h. C'est là où vous pourrez écouter toutes les musiques dont vous avez honte de chanter en public, mais que vous adorez crier sous la douche dans votre salle de bain. C'est des hits de toutes les époques, une ambiance musicale à mi-chemin entre la boum d'adolescents et la fête de village. Et surtout des tubes dont on ne devrait jamais vraiment avoir honte, puisqu'ils nous rassemblent tous. Voilà pour l'agenda. Je vais vous laisser avec une dernière chanson de la playlist. Alors, que choisir, que choisir? Eh bien, on va écouter Waves d'Imagine Dragons. Et on se retrouve dans une semaine avec une toute nouvelle émission. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine et je vous fais des bisous.
She figured it out. She started a job. She's feeling it out. And for once, it feels right. Was feeling like the prime of her life. But all of that is just a dream. Shattered now. And everything's changed. With one car and one night. It's driving through the prime of your life. Taking me in, but where was I? Well, he took his life. Well, I was singing in the prime of my life.